Le chemin de Damas de Louis Bertrand. Deuxième partie. La nuit de Noël à Bethléem. À l'école biblique de Jérusalem. Je ne fis guère que traverser Jaffa. Après avoir erré dans le quartier du port, je pris le train, sitôt déjeuné, pour Jérusalem où j'avais hâte d'arriver. D'ailleurs, Jaffa n'avait rien qui pût me retenir. Je retombais dans le milieu allemand et juif de Caïfa. Une platitude utilitaire au milieu de la pouillerie orientale. La saleté gluante des rues me rebuta tout de suite. Par surcroît de malchance, il pleuvait depuis 4 ou 5 jours. Partout, le sol était raviné, creusé de flaques et d'ornières profondes. Seul le quartier de la colonie allemande était d'une propreté relative. Ces petites villas, disséminées dans de la verdure, lui donnaient un faux air de riviera. Quelques beaux jardins pleins de bananiers et d'orangers, quelques bosquets de palmiers. Enfin, la plaine de Saron entrevue, avec ses cultures verdoyantes, sa grasse fertilité, ne pouvait pas non plus me monter beaucoup l'imagination. Après un repas sommaire et fort insipide, un repas à base de saindoux, dans un hôtel allemand, c'est avec joie que je quittais ces lieux sans charme et sous la brune qui tombait sans éclat ni couleur. Le voyage, qui durait alors 3 heures et demie, ne m'offrit aucune consolation. Je me souviens seulement qu'à une station, un certain nombre de voyageurs musulmans descendirent de leur wagon, étalèrent sur le quai de la gare leur tapis de prière et, se prosternant le front contre terre, se mirent en attitude d'oraison. En vain, le chef de gare agitait-il sa sonnette. Ses pieux musulmans, agenouillés, ne bougeaient pas plus que s'ils étaient sur les nattes de la mosquée. Il fallut les pousser de force dans leur compartiment. Nous arrivâmes à la tombée de la nuit, sous un ciel bas et toujours pluvieux, après avoir traversé une banlieue lépreuse et triste. Le train poussif montait péniblement les rampes du plateau hiérosolimitain. Le long de la voie, deux jeunes gens, juchés sur de maigres rosses, luttaient de vitesse avec le convoi. La première silhouette que j'aperçus, ce fut celle d'une sœur de Saint-Charles, assise en Amazone sur une ânesse toute blanche. Familière à mes yeux d'enfant, sa large guimpe empesée, sa cornette pointue de soie noire luisante, me rappelèrent immédiatement nos bonnes sœurs de Briey, la cour et la tourelle en poivrière de leur pensionnat. J'étais bien loin de Jérusalem. En mettant pied à terre, je me trouvais devant un café de Samos et quelques Bierhallen germaniques. Partout, des anciennes allemandes alternant avec des inscriptions en caractère hébraïque. Collées contre les vieux murs de David, des affiches annonçaient, pour ce soir-là, une représentation de Geneviève de Brabant au théâtre municipal. Au milieu de tout cela, des cochers indigènes qui vociféraient, qui claquaient du fouet du haut de leur siège pour appeler le client. Heureusement, un jeune père dominicain, venu pour m'attendre, m'arracha à leurs sollicitations et à la bataille des portefeuilles qui se disputaient mes bagages. C'était un fort beau couvent, encore dans sa fraîcheur de nouveauté, que celui où je fus conduit par mon guide et où je passai les 6 semaines de mon séjour à Jérusalem. Centre d'études bibliques, le monastère dominicain de Saint-Étienne accueillait des hôtes et des étudiants de toutes nationalités. Situé en dehors de l'enceinte, à quelques pas de la porte de Damas, bâti suivant les règles de l'hygiène et même du confort d'alors, ce superbe établissement m'offrait, avec toutes les garanties de salubrité, une retraite paisible propice au travail comme à la méditation. On se rappelle comment je fus amené à accepter cette aimable et docte hospitalité à la suite de ma rencontre avec le père Jausen, un des maîtres de la maison sur le bateau des messageries qui m'amenait à Beyrouth. On me donnait une chambre qui s'ouvrait, si ma mémoire est exacte, sur une vaste terrasse d'où l'on dominait toute une partie de la ville sainte, et je crois bien que de ma fenêtre, j'apercevais le dôme aplati du Saint-Sépulcre et un peu plus loin, le cocher de l'église protestante du Rédempteur, dessiné, me dit-on, par l'empereur Guillaume lui-même, toujours lui. À droite, le campanile des franciscains, la masse imposante de Notre-Dame de France et, çà et là, quelques minarets de mosquées. Après avoir longé la ligne sombre des vieux remparts, je fus tout étonné de retrouver, du haut de ma terrasse, les blancheurs lilas et mauves des villes orientales. Même les vieilles pierres de la porte de Damas me parurent aussi vermeilles, aussi chaudes de couleur que celles de nos casbahs algériennes. Effet de couchant, sans doute, car Jérusalem, dans mon souvenir, est restée une ville noire et funèbre, aux ruelles pierreuses, aux murailles hostiles et frustes, perpétuelle lapidation de la vue. Au milieu de toutes ces duretés, ce me fut un réconfort d'être reçu d'une façon si cordiale par le prieur de Saint-Étienne, qui était le père Paul Séjourné, le même qui, quelques années auparavant, avait guidé Bourget et Loti à travers la ville sainte. Le souvenir de Loti était encore très vivace à Saint-Étienne lorsque j'y passais. Comme celui de Guillaume II, j'allais le rencontrer un peu partout au cours de mes pérégrinations en Terre sainte. D'ailleurs, le père Séjourné parlait volontiers de cet étrange pèlerin qu'il avait promené à travers tous les lieux consacrés par la tradition. Il me disait « C'est moi qui suis le père blanc dont parle Loti dans sa Jérusalem. » Il avait dû frapper vivement ce visiteur, non pas seulement par son érudition si moderne et si éclairée, mais aussi par sa stature quasiment héroïque. Quand le père Séjourné montait à cheval, casqué de liège et drapé de blanc, je me figurais voir Godefroy de Bouillon en personne. Autour de lui se groupaient des maîtres éminents comme le père Lagrange, le père Yausson et une foule de jeunes religieux dont la plupart allaient se faire un nom dans l'exégèse, l'archéologie, la linguistique, l'histoire et la géographie ancienne. J'étais là dans un milieu de science et de haute culture où je pouvais me recueillir et étudier à loisir. La bibliothèque de l'école était déjà fort importante. Cela me rappelait l'atmosphère de normal avec plus de tenue, de sérieux et de vraie cordialité. Ce couvent de Saint-Étienne était un véritable centre intellectuel. Outre les cours suivis par les élèves, il s'y donnait des cours publics et des conférences auxquelles l'élite cultivée de la ville assistait. Quelques musulmans étaient parmi les auditeurs les plus assidus. J'y remarquais surtout, outre la colonie française, des Italiens, des Allemands et des Anglais. Cette école biblique était une petite Sorbonne palestinienne. Moi-même, à la requête de mes hôtes, j'y donnais une conférence littéraire sur la Thaïs d'Anatole France, dont je critiquais fort les types conventionnels et la couleur locale de pacotille, et cela à la grande surprise du public cosmopolite qui m'écoutait. Il avait raison et moi j'avais tort. C'est une sottise bien française que de se dénigrer soi et les siens devant l'étranger. Mais ces exercices ne furent qu'une brève diversion. Pendant les quelques semaines que je passais à Saint-Étienne, je fus surtout occupé de l'affaire capitale qui m'obsédait depuis Beyrouth. En matière religieuse, j'avais toujours de grands doutes. Je voulais profiter de mon séjour dans cette savante maison pour essayer de les résoudre, et avant toute chose, me demander si réellement j'étais disposé à ce grand changement de route. J'avais été ébranlé à Beyrouth, mais ce changement, est-ce que sérieusement et sincèrement je le voulais? Alors je me résolus à me mettre une bonne fois devant moi-même, à faire rigoureusement mon examen de conscience. Quelle aventure! Ce n'était pas précisément pour cela que j'étais parti. Qui donc nous mène? J'avais rencontré à Beyrouth le père Rey, de la Compagnie de Jésus, véritable tempérament d'apôtre, et cette rencontre avait fait sur moi une très forte impression. Tout m'avait choqué et rebuté dans ses procédés d'apologétique et d'apostolat, et cependant il m'avait forcé à réfléchir. Il m'avait dit notamment « Pourquoi vous imaginez-vous n'être plus catholique? Il n'y a entre le catholicisme et votre esprit que des résidus de vieilles idéologies. » Mais ce n'était pas cela, surtout, qui m'avait frappé. C'était l'accent de charité qui perçait à travers ses paroles un peu rudes. En même temps, je me rappelais tout ce que j'avais vu et tout ce que j'avais appris de nos religieux, depuis près d'une année que j'étais en Orient, l'œuvre d'abnégation et de charité entreprise et soutenue pendant des siècles sur cette terre ingrate. Au même moment, le père disait « Si vous saviez comme c'est dur à de certains jours, pour nous, missionnaires, il y a de telles agonies de l'âme qu'on est tout près de désespérer. » Ô Jésus, il me sembla que je venais d'entendre le cri même du jardin des Oliviers. Soudain, l'image du Christ, si effacée dans ma mémoire, recommençait à vivre. À travers toute une filiation d'apôtres, un enchaînement ininterrompu de sacrifices et d'immolations, je le rejoignais au fond des âges. Lui, toujours vivant, quelle merveille! Retrouver l'accent de sa voix dans celle de ce pauvre missionnaire dont je venais de mépriser la pensée ordinaire et la rhétorique malhabile. Parmi les lectures que j'entrepris alors, celle de la vie de Jésus de Renan me retint tout particulièrement. Autrefois, j'avais beaucoup admiré ce livre. J'en avais su des passages par cœur. Voici que je le rouvrais, après 20 ans, comme un livre nouveau. Et la première chose qui m'y frappait, c'est le sans-gêne incroyable avec lequel l'auteur manipule, élague ou supprime les textes. Une autre évidence me sauta tout de suite aux yeux. Cet homme, qui prétend ne faire œuvre que de philologue et d'historien, ne tablait que sur le fait positif, sous-entend en réalité toute une philosophie dans son histoire, de sorte que les faits qu'il raconte finissent par n'être plus que la métaphore ou l'expression symbolique du scientisme alors à la mode. Lui-même, d'ailleurs, n'en fait point mystère. Il commence par nier le surnaturel, par rejeter le miracle comme contradictoire avec les lois de la science. Cette conception du miracle me paraissait arbitraire et toute nouvelle, et j'étais alors très près de penser, avec saint Augustin, que si les miracles de Dieu sont considérés généralement comme contraires à l'ordre naturel, ce n'est point précisément parce qu'ils sont en contradiction avec la nature, mais parce qu'ils excèdent les moyens naturels qui nous sont connus. Cependant, j'étais toujours embarrassé par les contradictions apparentes que je trouvais dans les livres saints. Je soumis ces difficultés à l'éminent exégète qu'était le père Lagrange. Comme pour éprouver mes forces, il renforça mes propres objections, puis il me fournit ses explications personnelles ou les solutions consacrées de l'exégèse catholique. En même temps, il me faisait comprendre que pour toucher à des questions aussi complexes et aussi délicates, une longue préparation est nécessaire et aussi un tact spécial, une sorte de sens philologique qui ne s'acquiert qu'à la longue. Sur ce domaine de l'exégèse, comme sur celui de la philosophie, je sentais mon incompétence devant les spécialistes. De nouveau, j'étais donc rejeté vers l'acte de foi, un acte de foi éprouvé et légitimé par ma raison. Pour moi, le grand guide illuminateur, pendant toute cette période de trouble, fut le Saint-Sépulcre. J'y faisais de fréquentes stations, surtout à l'heure du chemin de la croix. Mais avant mon ferme propos, je subis bien des hauts et des bas. Je fus maintes fois sur le point de revenir en arrière et de n'y plus penser. Et puis enfin, il y avait toujours pour moi le souci de ma mission, que bien qu'elle touchât son terme, ne laissait pas de me préoccuper. Je ne pouvais me désintéresser de ce milieu si extraordinairement cosmopolite et si suggestif qu'est Jérusalem. Je me mis donc, encore une fois, à courir les couvents, les écoles et les hôpitaux. Et Dieu sait s'il y en avait. Au cours de mes visites, il m'arrivait d'entendre des propos ou d'assister à des scènes qui contrariaient quelque peu mes actuelles dispositions d'âme et d'esprit, ou qui étaient comme une dérision de ce qui se passait en moi. Un matin, je reçus de la supérieure de Notre-Dame de Sion un billet des plus aimables qui me conviait à un entretien et à une visite du couvent. Comme je l'ai déjà dit, la réputation de ces dames était considérable dans tout le Proche-Orient. Je crois bien qu'en passant à Alexandrie, j'avais eu l'honneur d'être accueilli par une autre supérieure du même ordre, la propre fille de Prévôt Paragol, alors célèbre dans toute l'Égypte. Celle de Jérusalem terminait son billet par cette petite phrase, dont l'effet sur moi fut irrésistible. « Je vous réserve une surprise. » De quelle surprise s'agissait-il ? Sans doute de quelques découvertes archéologiques sensationnelles. Je savais que des fouilles avaient été exécutées dans le couvent des Dames de Sion, construit sur l'emplacement de la Via Dolorosa et qui renfermait, encastré dans sa maçonnerie, un fragment de l'arc de Lecce Homo. Je me disais, tout pénétré d'une pieuse curiosité, quel débris, quelle relique vénérable va-t-elle me montrer ? Je suis introduit au parloir où la mère supérieure me rejoint bientôt. Après l'échange des civilités et quelques propos des plus flatteurs pour moi, elle me dit, d'un petit air fin, « Je vous avais promis une surprise, la voici. » Et en me retournant, je vis entrer une religieuse, les mains croisées dans ses manches, les yeux baissés et l'air confit. Un peu interloqué, je saluai cérémonieusement. « Comment ?» me dit la religieuse, qui cette fois me regarda bien en face. « Vous ne me reconnaissez pas. » Hélas, j'avoue que sous ce costume... « Mais, monsieur, nous avons dansé ensemble chez les Casals à Troyes. Vous ne vous rappelez pas, les Casals, avec votre ami Pierre Savine. » Seigneur, c'était la pure vérité. Je me confondis en excuses. Et sous les yeux complaisants de la mère supérieure, ce fut le rappel d'une foule de souvenirs juvéniles, déjà à demi effacés. Cela me fit bien plaisir, mais tout de même, ce n'était pas pour cette surprise-là que j'étais venu. Entraîné par les propos de mon ex-danseuse, j'évoquais les gigues, les cotillons et les quadrilles américains de ce temps-là, et je revoyais cela sous l'arc de Lecce Homo sur le pavé même de la Via Dolorosa. J'en étais un peu scandalisé, et puis je m'attendris en pensant que c'était peut-être le dernier tour vers le passé, la dernière vision mondaine de cette jeune fille. Sous son voile et sa guimpe, je la voyais toujours jeune, comme à 20 ans. Et plus tard, songeant qu'elle avait prononcé devant moi le nom de son ami Pierre Savine, cet ami mort prématurément et qui, anormal, avait déjà tenté de me convertir, je finis par me demander s'il n'y avait pas eu dans cette rencontre quelque chose de providentiel et comme un appel du mort au moment opportun. Au jardin des Oliviers, je fus mêmement détourné de l'habituel sujet de mes méditations par les discours intempestifs du capucin qui m'en fit les honneurs et par la vue d'un bassin où il y avait des poissons rouges et qui, en un lieu pareil, me choqua comme un blasphème. Quelques jours après, j'en parlais chez notre consul au cours d'un déjeuner offert à quelques notabilités de Jérusalem. « À propos du jardin des Oliviers, me dit le consul, savez-vous qu'il y est arrivé à Loti une bien singulière aventure dont il n'a point parlé dans sa nuit de Gethsémani ?» Et comme j'insistais pour obtenir le récit de cette aventure singulière, je m'étais promis de ne la raconter qu'à son successeur à l'Académie. « Dites toujours, » fis-je intrépidement. « Eh bien voilà. On avait donné à Loti, pour l'accompagner au jardin des Oliviers, un kawas du consulat qu'il appelle pompeusement un janissaire. C'était précisément le gaillard que vous voyez là, celui qui vient de vous passer les plats. C'est lui qui nous a tout raconté. Vous vous rappelez que Loti ambitionnait au Gethsémani une apparition du Christ, une apparition spéciale pour lui, Loti, pour dissiper ses doutes. Voyant que ses prières étaient vaines, et pour se provoquer à l'extase, ne savait-il point de recourir au procédé des derviches tourneurs, puis des derviches hurleurs que sans doute il avait vus à Constantinople. Il commença par tourner vertigineusement sur lui-même comme une toupie, puis comme rien ne venait, il se mit à hurler en brandissant un sabre ou un poignard, et cela avec une mimique tellement terrifiante que le kawas, se croyant menacé, tira son revolver et coucha en joue Loti, dont l'ébullition mystique se calma comme par enchantement. Tandis que le consul parlait, le kawas, héros de l'histoire, le kawas ganté de blanc qui nous passait les plats, ricanait niaisement, sur quoi le consul l'apostropha. « Misérable, qu'est-ce que tu aurais fait là avec ton revolver ? Tu allais casser une des plus grosses têtes de France !» Et le kawas, figé dans son ricanement, regardant l'assistance, un peu ahuri. « Non, non, tu te moques de moi, lui, pas grosse tête, petite tête, petite tête !» Et comme nous rions de cette naïveté qui avait l'air d'une malice, il riait lui aussi, dans sa face boucanée, en montrant toutes ses dents. Loti, dans son livre sur Jérusalem, a fait une description enthousiaste de la mosquée d'Omar, description qui sert de repoussoir à celle plutôt désolante du Saint-Sépulcre. Très désireux de contempler cette merveille, je priai le même consul de m'en faciliter l'accès. Il prétendit que les autorités ottomanes venaient de suspendre les entrées pour un temps indéterminé, simple tracasserie dont il fallait prendre philosophiquement son parti. J'ai compté ailleurs comment je réussis néanmoins à pénétrer dans la mosquée d'Omar grâce à la protection d'un gros juif important et vaniteux qui, en sa qualité de représentant d'une banque israélite, faisait marcher à sa guise tous les fonctionnaires du sultan, était enfin dans Sion un personnage. Mais je n'ai point dit comment nous fûmes reçus par le chef des imams de la mosquée, vénérable cheikh à la barbe de fleuve. Dans un charmant petit réduit attenant à la mosquée, le cheikh nous fit asseoir à côté de lui sur des coussins. Un esclave apporta un grand plateau de cuivre où il y avait de petites tasses de café et des cigarettes, et la conversation s'engagea le plus cordialement du monde entre mon guide et ce dévot musulman. Il parlait arabe naturellement et je n'y comprenais goutte, mais je devinais qu'il était question de moi. Soudain, le juif me dit en français « Il demande si vous êtes de Paris ». Dans l'intérêt de mon prestige, je crus devoir répondre que oui. Sur quoi le cheikh, caressant sa belle barbe, me dit d'un air farceur « Ah ah, Paris, petite femme, petite femme !» C'étaient les seuls mots français qu'il connut, et c'était tout ce qu'il savait de Paris. J'étais fort mortifié et encore une fois, passablement scandalisé. Eh quoi, entendre de tels propos à Jérusalem, à deux pas du sanctuaire où fut l'Arche Sainte et l'autel de Jéhovah ! L'impression désagréable que je ressentis m'empêcha sans doute d'admirer la mosquée d'Omar autant que Loti. Et pourtant sa description, quoiqu'un peu montée de ton comme c'est inévitable, est merveilleuse de rendu et de justesse. Ce que j'admirais le plus avec lui, ce sont les vitraux extraordinaires de couleur et d'intensité lumineuse. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'un tel édifice détonne dans un lieu pareil. C'est un kiosque pour sultane validée, un boudoir voluptueux bien plus qu'une maison de prière. Aucun rapport avec le Saint-Sépulcre, les deux sanctuaires si proches sont à 1000 lieues l'un de l'autre. Surtout, je fus bien affligé d'apprendre par mon guide que les imams de la mosquée vendaient aux touristes les faïences anciennes des revêtements. Presque toutes, m'affirmait-il, auraient été remplacées par des céramiques italiennes, modernes et de qualité vulgaire. Modernes aussi, les tapis, sauf quelques-uns très vieux et devenus à peu près intransportables. Tous ceux que le monde montrait n'étaient que d'ordinaires tapis de Smyrne. Les plafonds et la coupole auraient été repeints en ton cru sous Abdulaziz, et ainsi il n'y aurait plus d'authentiquement anciens à la mosquée d'Omar que les mosaïques et les marbres. Il faut avouer d'ailleurs qu'ils sont de toute beauté, comme les vitraux. Si bien que je fusse au couvent des Dominicains, je ne m'accoutumais point à Jérusalem, à ses misères, à ses duretés, à ses puanteurs. Tout me paraissait pauvre, rabougri, hostile, comme contracté dans le refus, la haine, l'hostilité. Le père Rey, mon catéchiste de Beyrouth, m'avait averti. « Vous verrez, c'est la ville du supplice. » Et je me rappelais la phrase de Renan sur Jérusalem, « C'est un lieu sémitique. » Même au Saint-Sépulcre, où je faisais de fréquentes stations, je me sentais dans une atmosphère peu sûre, au milieu de tous ces fanatismes plus ou moins latents, de toutes ces rivalités de race et de confession. Un soir, à l'heure de ténèbres, je me heurtais à une procession de prêtres abyssins qui vociféraient je ne sais quelle psalmodie, d'une bouche tellement horrible dans leur noire figure plissée de vieux eunuques, et en brandissant des croix et des cierges avec des gestes tellement frénétiques que je m'enfuis comme devant une horde de démons. Dans toute cette désolation pierreuse que sont les entours de Jérusalem, un seul spectacle m'attirait, le miroitement vaporeux de la mer morte qu'on découvre des hauteurs du mont des Oliviers sur la route de Jéricho. Certains soirs que l'air était très pur, cette pâle turquoise enveloppée de brume, au fond de son entonnoir sinistre de montagne, ce lac maudit me fascinait en me rappelant toutes les phrases qui ont été écrites sur lui. Je voulais absolument voir la mer morte, et je fis part de mon désir à mes hôtes qui m'y engagèrent vivement. Le père Séjourné me dit que je ne devais pas me borner à l'excursion de Jéricho et de l'embouchure du Jourdain, que de cet endroit la vue de l'asphaltite est médiocre, que pour le contempler dans toute son ampleur et dans toute sa tragique beauté, il convenait d'aller jusqu'à En-Gadi, par le désert de Juda. C'était 2 petites journées de marche tout au plus. On me trouverait des mocres et un guide bédouin pour m'accompagner, des chevaux pour mes bagages et pour moi, des tentes pour le campement, car je devrais passer au moins 2 nuits en route. Notre caravane partirait de Bethléem, où je pourrais être de retour si je voulais pour la veille de Noël et communier dans la basilique de la Nativité si je me sentais alors dans les dispositions requises. Je me ralliais à ce programme, et je puis dire que c'est à partir de ce moment que commença réellement pour moi la retraite qui allait me conduire à l'adhésion totale. Je passais une semaine entière dans une solitude à peu près complète, coupé seulement par mes entretiens avec un jeune dominicain, le père Houillon, qui m'accompagnait, entretien qui roulait sur les sujets que l'on devine. C'est avec lui que j'ai visité Jéricho et les rives du Jourdain. Mais, pour aller à En-Gadi, je fus complètement seul, seul avec une nombreuse escorte qui me laissait tout entier à mes méditations et à mes contemplations. J'ai toujours aimé les vastes espaces désertiques. Cette fois, j'éprouvais, comme jamais je ne l'avais fait jusque-là, l'influence pacifiante et religieuse du désert. Je ne m'étonne pas que tous les grands initiateurs et tous les grands lyriques y soient venus faire provision d'images, d'énergie morale et de haute pensée. J'ai déjà dit ailleurs l'action purifiante et exaltante du désert sur les âmes méditatives et même sur n'importe quelles âmes. Les plus basses en reçoivent comme une noblesse. Aucun cloître ne vole désert, non seulement pour couper toute attache entre vous et le monde, mais pour vous faire sentir votre dépendance et en même temps pour vous restituer à vous-même. Rien ne commente avec une plus magnifique et terrible évidence le célèbre morceau de Pascal sur la grandeur et la misère de l'homme. C'est ici que le roseau éprouve le mieux la tragique horreur de ces grands espaces vides, de ces infinités qui le pressent de toutes parts, mais aussi le prix infini d'être une petite pousse de vie dans ces espaces de mort et de stérilité, un éclair de pensée parmi la stupidité sans bornes de toute cette matière. Bien des années auparavant, en Afrique, dans les steppes sahariennes, j'avais ressenti cette influence apaisante, purificatrice et vraiment religieuse du désert. Avec les dispositions où je me trouvais alors, cette influence ne pouvait être que décisive. Quel fut mon état d'esprit pendant toute cette semaine, je ne m'en souviens plus. L'acte que j'accomplis enfin ne serait qu'une grande date dans ma vie si je n'avais retrouvé tout récemment les notes que l'on va lire et qui furent écrites sur des impressions encore fraîches.